Sur les voies du paranormal, ce matin, Marc Menant, vous évoquez le serpent cosmique en compagnie de Jérémy Narby, docteur en anthropologie de l'université de Stanford, avec bien sûr vos témoignages, vos commentaires, vos interrogations sur le 01 42 32 15 15.
Très bien dit, Jackie. Alors effectivement, avec Jérémy Narby, si on envisageait la naissance du monde en quelque sorte, ce qui est invraisemblable, vous êtes anthropologue, et si on fait attention aux légendes qui sont véhiculés, formulés par les diverses plopes sur la planète, il semblerait qu'il y ait bien une constante et que cette constante, ce soit le serpent. J'aimerais qu'on s'arrête deux secondes sur l'une de ces thèses développées par un personnage, et là vous mettez ça en exergue dans votre ouvrage, c'est M. Harner, c'est un anthropologue comme vous d'ailleurs.
Oui. Hein? Alors, Michael Harner était un anthropologue américain. Dans les années 50, il a commencé à travailler avec les Jivaros. Et ensuite avec les Conibo Shipibo en Amazonie péruvienne. Et il faisait de l'ethnographie, c'est-à-dire qu'il étudiait un peuple de façon globale, ce qu'il mange, comment il s'habille, comment la société est organisée, ainsi que leur religion. Et au bout de plusieurs années d'études, il s'est aperçu que ce que ces gens croyaient était la chose qui lui échappait. Et donc, il a décidé de se concentrer sur cette question, en particulier chez les Conibo Shipibo. Il est retourné en 1961 sur place et pour passer deux ans avec eux, pour étudier spécifiquement leur religion. Et au bout d'une année d'investigation, il avait toujours l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé. Et un jour, un chaman Conibo lui a dit, « Si tu veux comprendre ce que l'on pense, tu dois boire de l'ayahuasca. » C'est cette boisson hallucinogène que les chamans utilisent pour parler avec les esprits dans la nature.
Ça, c'est en Amazonie péruvienne en particulier, parce qu'il y a d'autres endroits où on n'utilise pas spécialement cela, mais on arrive au même résultat.
Voilà. Et le problème, évidemment, c'est qu'un anthropologue en 1961, travaillant pour une université américaine bien en vue, se doit de garder son objectivité. Et donc, jusqu'à ce jour-là, aucun anthropologue n'avait essayé ce que les Indiens disaient.
Mmh. Et lui, il va avoir le culot de le faire.
Et il l'a fait, pour voir. Et il se décrit comme étant un athée à la base et tout ça. Bon, alors, il boit le liquide amer un soir, une dose assez élevée. Il décrit ça comme une tiers de bouteille, donc c'est considérable. Et dans ses visions, il se retrouve au début du monde, il se retrouve avec des serpents à l'intérieur de son cerveau qui lui projettent des images, une sorte de film. Et ce qu'il voit, c'est le début de la vie sur la Terre. Et il voit la Terre comme une boule relativement stérile, et tout d'un coup, des petits grains noirs qui tombent du ciel. Et à y regarder de plus près, ces grains sont des énormes créatures reptiliennes qui, devant ses yeux, créent une énorme diversité d'espèces, de plantes et d'animaux sur des centaines de millions d'années accélérées en quelques secondes ou minutes, et se cachent à l'intérieur de ces formes de vie, puisqu'ils arrivaient, lui explique-t-il, du cosmos en s'enfuyant d'un endroit où ils avaient eu des problèmes. Et c'est pour ça qu'ils se cachent à l'intérieur de la vie. Bon.
Alors ça, c'est formidable parce que ça sous-entend que les extraterrestres seraient à l'origine éventuellement du peuplement terrien. Et ça, on retrouve la même hypothèse chez les aborigènes. Alors entre l'Amazonie et les aborigènes, ce sont des civilisations qui n'avaient aucun lien. Mais on peut retrouver ça également en Sibérie, là où on ne connaît pas. Donc ça, c'est complètement fou, non?
Mais oui, attendez, parce que juste à ce moment-là, dans son récit, il met une petite note au bas de la page où il dit: on pourrait dire que ces créatures reptiliennes ressemblaient à l'ADN, qui est donc présent dans toutes les cellules de tous les êtres vivants, mais à cette époque-là, en 1961, je n'avais jamais entendu parler d'ADN.
Alors ça, c'est fou, c'est-à-dire que soudain, dans un état de conscience modifié, un personnage qui ignore l'ADN, mais donc qui est un scientifique pur et dur, vous l'avez dit, qui n'a pas de croyance véritable et qui serait plutôt un grand rationaliste, d'existence de l'ADN, donc de ce qu'il y a de fondamental dans l'existence.
Ou en tout cas, découvre l'idée qui est répartie chez les peuples indigènes du monde d'ailleurs, d'esprits en forme d'énormes créatures reptiliennes, de très longs serpents entrelacés, déguisés à l'intérieur de toutes les espèces, y compris nous-mêmes. Bon, alors, Arner, ensuite, son expérience ce soir-là est longue. Il se voit mourir, il voit des hommes à tête d'oiseau, il voit des motifs égyptiens, il vole dans le cosmos, enfin, des longues aventures. Et le lendemain, il est bouleversé quand même. Et il découvre par la suite qu'il y a un lien entre ces créatures reptiliennes qu'il décrit comme des sortes de dragons, de serpents, et on se rend compte, en fait, tout près de lui habitaient deux missionnaires américains dans la région. Alors lui, après cette expérience, il avait besoin d'un contact avec des Occidentaux, alors il a sauté dans son canoë moteur, il a descendu la rivière jusqu'à la mission, et il a raconté, alors que lui était l'athée anthropologue, normalement ennemi des missionnaires, si on veut dire, là en fait ils se sont retrouvés et il leur a raconté son expérience. Et ces deux missionnaires lui ont fait lire immédiatement des extraits du livre de l'Apocalypse. Donc il y a une guerre dans le ciel et le dragon, cet ancien serpent, se bat contre Saint-Michel et les anges et tout ça. Et Arner a tout de suite vu qu'il y avait des correspondances entre ce qu'il avait vu dans ses visions au fond de la forêt et ce qui est écrit dans le texte sacré de l'Occident.
Ah, c'est complètement fou. Et alors après, en plus, il y a la notion de corde. On ne va pas faire une émission scientifique, il y a un sirop pour ça, mais l'ADN, c'est vrai, ça donne un fil torsadé à double hélice et qui est relié, et ça fait comme une échelle de corde, en quelque sorte. Et dans le mythe, apparemment, on dit qu'il y a un lien perpétuel entre le cosmos et puis les hommes par l'intermédiaire de ces échelles, c'est ça?
Alors, 33 ans après l'expérience de Arner, j'étais dans mon bureau et personnellement, je cherchais à comprendre ce que ces chamans racontaient à propos de ces esprits. Et j'ai pris, parce qu'Arner ne parle pas plus d'ADN que d'une petite note en bas de la page.
Mm-hmm.
Alors, j'ai constaté, effectivement, en me penchant un petit peu plus sur l'ADN, qu'il y a des correspondances vraiment exactes entre ce que les indigènes du monde disent à propos de ces entités. Mircea Eliade appelle ça l'axis mundi, l'axe du monde, qui est assez long pour relier le ciel et la terre, et qui a exactement cette forme de deux lianes entrelacées, de deux serpents entrelacés, d'une échelle torsadée. Alors, les scientifiques utilisent exactement ces mots-là pour décrire la forme de l'ADN. Le fait que la molécule d'ADN ait cette forme est centrale à sa fonction, c'est parce qu'elle est une double échelle entrelacée qu'elle peut se séparer et faire des copies exactes d'elle-même. Et à l'intérieur d'une cellule humaine, ce que vous avez, c'est un fil d'ADN qui a 2 mètres de long et 10 atomes de large. Tout ça compacté à l'intérieur d'un noyau de 2 millionièmes d'une tête d'épingle. Quelque chose qui a cette dimension-là, c'est comme un petit doigt qui va de Paris à Los Angeles.
Mmh.
Et si vous prenez tous les fils d'ADN dans un corps humain, vous avez 10 puissance 14 cellules, c'est 100 000 milliards de cellules, fois 2 mètres, ça vous donne 200 milliards de kilomètres d'ADN dans votre corps, approximativement, ce qui est équivalent à 70 allers-retours entre Saturne et le Soleil. Donc, si vous voulez des correspondances entre la réalité de nos corps que la biologie moléculaire a mis en valeur dans la deuxième moitié du XXe siècle et ce que tous les peuples indigènes de la Terre racontent depuis des milliers d'années, vous les avez, ils sont là, pas seulement sous notre nez, mais dans notre nez.
Et alors, en plus, alors en plus, tout à l'heure, vous utilisiez ce terme « axis mundi », hein, c'est donc ce qui permet de se projeter dans l'éther, en quelque sorte, et il semblerait que c'est de cette manière-là que l'on puisse entrer en contact avec les morts, c'est ça?
Oui, alors, ce que les chamans racontent, c'est que c'est cet axe qu'ils voient dans leur vision, et c'est l'axe le long duquel les esprits se baladent, et grâce auquel il est possible de communiquer avec d'autres dimensions du cosmos, avec les morts, avec les essences de la vie.
Alors, on va revenir sur tout ça, bien évidemment, et on va le développer. On va faire un détour par la Belgique, mission très internationale ce matin, vous êtes suisse, je le rappelle, et on va demander à Yves Aumont, qui est professeur de religion, et en particulier s'intéresse à la comparaison entre les diverses religions. Yves Aumont, bonjour.
Bonjour.
Je n'avais pas au départ prévu de vous poser cette question, mais je pense que je ne vais pas vous surprendre pour autant. La notion du serpent, on la retrouve dans toutes les religions, et quand vous entendez Jérémy Narby exposer cette connaissance ancestrale de ces peuplades primitives, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Mais ça m'inspire beaucoup de choses, et d'abord, je trouve le livre de Jérémy Narby tout à fait remarquable. Et évidemment, surtout quand il insiste sur la manière dont les produits comme l'ayahuasca ou les produits utilisés par ces chamans permettent de prendre conscience du regard. C'est le regard qui crée notre... C'est la manière dont nous focalisons notre regard qui organise la réalité que nous voyons. Il utilisait un merveilleux exemple, c'est les stéréogrammes. Vous savez, ce sont des cartes postales qu'on vend dans certains magasins, d'ailleurs toujours, qui représentent des petits points que vous êtes complètement incapable d'organiser. Et tout d'un coup, quand vous vous laissez aller, quand vous cessez de le regarder, tout d'un coup, au milieu du chaos, apparaît par exemple un dauphin en train de bondir dans les vagues. Maintenant, quand on lit la Bible en pensant à ce que dit Jérémy Narby, c'est évident qu'au fond, la Bible commence par des histoires de serpents, avec l'histoire du serpent de la Genèse. Et le serpent de la Genèse a l'air de représenter le mal dans cette histoire, puisqu'il nous incite à désobéir à la loi qui nous interdit de manger de l'arbre du bien et du mal. On ne dit pas d'ailleurs du fruit de l'arbre, le texte dit manger de l'arbre. Alors donc, il y a quelqu'un qui mange quelque chose, sa vie change et son regard change. Et ce serpent que nous avons un peu trop vite identifié au mal... D'abord, Dieu lui-même, dans le premier chapitre, quand il crée les grands serpents, il affirme que c'est bon. Donc le serpent est bon, comme la création est bonne, et puis ce serpent nous présente des vérités piégées. Et il nous lance dans cette aventure extraordinaire qu'est la liberté, et nous autres chrétiens, particulièrement les catholiques, nous chantons à Pâques, l'heureuse faute d'Adam qui nous a conduit à un tel salut, à un tel sauvetage. Et il dit, et au fond, que fait le serpent pour encourager l'homme, et la femme plutôt, à manger le fruit de l'arbre? Il dit, vous serez comme des dieux. L'intéressant de l'histoire, c'est que ce serpent est donc quelque chose qui nous lance dans cette aventure, et que plus tard, Jésus lui-même va se comparer au serpent. Il dit, comme le serpent a été élevé dans le désert, à un certain moment, les Hébreux étaient poursuivis par des serpents brûlants qui les punissaient de leur manque de foi envers Moïse. Et Dieu ordonne à Moïse quelque chose qui est une contradiction totale avec les commandements qu'il lui donnera peu après, c'est de construire un serpent d'airain qu'il montrera au peuple. Et ceux qui regarderont le serpent seront sauvés. Jésus lui-même se compare à ce serpent. Et les kabbalistes, par exemple, remarquent volontiers que, vous savez que en hébreu, chaque mot est en même temps un chiffre, puisque chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Et pour les kabbalistes, ce n'est peut-être pas une manière de raisonner extrêmement rigoureuse, mais ça stimule l'imagination, tous les mots qui ont le même total numérique représentent quelque chose qui a quelque chose en commun. Eh bien, le mot serpent et le mot messie ont le même total numérique.
Alors, dites-moi, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est cette constante du serpent, et lorsque l'on se fie à ce que disent les chamans, ils voient deux serpents enlacés. Les deux serpents enlacés, ça fait penser à l'hélice d'ADN. Et les chamans vont même plus loin, puisqu'ils disent, eh bien, ce serpent, il est niché en eau. Et vous disiez vous-même, il y a quelques secondes, Dieu nous considère nous-mêmes comme des dieux, puisqu'il dit, vous serez tous des dieux. Alors, est-ce que là, il n'y a pas l'ADN qui, en quelque sorte, se trouve formulé?
Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'ADN, c'est le nom de Dieu en hébreu. Adon, qui donne Adonai, ça crie ADN. Et André Chouraki, par exemple, qui a traduit la Bible tout entière, c'est le premier juif à avoir traduit le Nouveau Testament, et qui a traduit ensuite le Coran, faisait déjà remarquer dès 79 que cet ADN créateur portait le même nom que Dieu. Ce qui est intéressant aussi du point de vue de Jérémie Narby, c'est que même dans l'Apocalypse où il est question de dragons extraordinaires, il est aussi question de manger quelque chose. Je vous lis le texte.
Oui.
Au moment du septième messager, la voix que j'avais entendue me parle de nouveau derrière moi et dit « Va, prends le volume ouvert dans la main du messager. » Le messager, c'est l'ange, n'est-ce pas ? Je m'en vais vers le messager, je lui dis de me donner le petit volume. Il me dit « Prends et dévore ceci, il rendra ton ventre amer, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je ne sais pas quel est l'effet de l'ayahuasca et s'il peut produire ce genre de symptômes, mais c'est une idée amusante en tout cas.
Merci. Alors justement, on va parler de ce produit. On dit produit, c'est un mélange de lianes.
Oui.
Alors vous l'avez utilisé vous-même.
Oui.
Alors racontez-nous votre expérience, ce que ça a déclenché et ce que ça vous a appris.
Bon, c'est une expérience extraordinaire. Mais je crois qu'il est important de le préfacer en disant que ce que je vais dire n'est en tout cas pas un appel aux autres de suivre. Mmh. C'est une expérience qui est difficile, pénible, terrifiante, et selon avec qui vous la faites, ça peut être dangereux. Parce que...
C'est bien de préciser, et rappelons aussi, et vous le notez très soigneusement dans votre ouvrage, que nombre de chamans, en d'autres lieux, même en Amazonie, n'ont pas besoin de cela pour entrer dans cet état de transe qui leur permet d'avoir les mêmes intérêts d'information.
D'une part, et d'autre part, chez ceux qui l'utilisent, il y a la capacité d'en abuser pour faire du mal aux autres. Mmh. Et il y a donc tout un côté obscur au chamanisme, dont on ne parle pas maintenant parce qu'on parle plutôt de ses utilisations. En l'occurrence, j'ai eu la chance d'être initié par un chaman au cœur pur, donc un guérisseur. Mais les deux choses ne sont jamais tout à fait divorciables, puisque plus un chaman a la capacité de guérir, plus il a la capacité d'abuser de ce pouvoir-là. Mmh, mmh. Toujours est-il que celui qui m'a initié avait le cœur pur et était dans un bon jour. L'expérience, je ne sais pas si c'est exactement comme du miel dans l'estomac, dans le sens que, bon, ça se passe la nuit, c'est un liquide amer à en frémir, très désagréable à avaler. En Ashaninka, le mot est kamarank, du kamaranki, le verbe veut dire vomir. Mm-hmm. Le surnom en espagnol pour l'ayahuasca en Amazonie péruvienne, c'est la purga, la purge.
D'accord.
Donc, c'est un vomitif. Et si vous n'avez pas le corps entièrement préparé avec des jeûnes et tout ça, facilement, vous régurgitez ce que vous buvez.
Alors nous, on va faire un jeûne de mots, le temps d'une page de publicité, et puis on revient à l'expérience en tant que telle.
Okay.